France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandy Berhousey.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Une brigade, un journaliste, un morceau de guerre en Ukraine. Ces hommes doivent traverser une forêt qui n'est plus qu'une bande verte cernée de mines et au bout, à 2000 mètres, un village à reprendre. Ce film, diffusé dimanche sur France 5, est hallucinant. Il montre la guerre dans toute sa brutalité et nous sommes avec celui qui a filmé. Le budget britannique, toujours plombé par le Brexit, c'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est au Brésil, dans l'Amazonie, qui lutte contre les orpailleurs, autrefois encouragés par Jair Bolsonaro.
Tu as vu les dégâts que ça fait ? C'est triste, triste, vraiment triste. L'environnement, tout le monde s'en fout. Il n'y a que l'or qui compte.
Un reportage de Jean-Mathieu Albertini que vous découvrirez autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé les États-Unis avec les singes qu'on n'utilise plus comme cobayes pour la recherche. Et Ilana Mor-Youssef, qui lit et relit les auteurs qui racontent la planète, s'est arrêtée sur l'annonce cette semaine de la maladie de la petite fille de Kennedy. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Le village se trouve à 2000 mètres. 35 secondes à vol d'obus. 2 minutes en voiture. 10 en courant. Mais ici, ce n'est pas le temps qui importe. C'est la distance. Et elle se mesure à la longueur des pauses entre les explosions.
Extrait de ce film à 2000 mètres d'Andrivka, signé Mislav Tchernov, qui avait déjà fait un film très impressionnant sur Mariupol il y a quelques années. La sortie en salle de ce film-là a déjà eu lieu, mais il est diffusé à la télévision sur France 5 ce dimanche. Et c'est impressionnant. Il raconte donc, bonsoir Mislav Tchernov.
Good evening, thank you for this invitation.
Merci à vous. Il raconte donc les 2000 mètres vers cette ville d'Andrivka. 2000 mètres littéralement. Les soldats que vous accompagnez vont devoir les parcourir sur une bande de forêt qui est cernée par des mines. C'est cru, c'est brutal, c'est sale, c'est à hauteur d'homme. Et c'est ça que vous vouliez montrer. La réalité des hommes, non seulement dans la guerre, mais peut-être aussi pris par la guerre.
Oui, vous savez, quand j'ai commencé à faire ce film, c'était en 2023, c'était un film qui parlait de la libération du petit village d'Andrivska, qui est dans la région est du Donbass. Mais ce film, enfin le projet a évolué depuis, parce que pour moi, c'est devenu un véritable symbole. Cette lutte pour récupérer la terre, c'est un symbole de la lutte des Ukrainiens qui se battent pour leur terre, et on voit qu'avec le passage du temps, et aujourd'hui on le voit dans l'actualité, dans les échanges diplomatiques, l'Ukraine est contrainte de céder ses terres. Et je crois que c'est la meilleure façon de comprendre ce que cette terre signifie pour ces Ukrainiens, ces villages, ces forêts, ces mètres, ces kilomètres ont un sens pour ces familles ukrainiennes. Et quand on voit le film, on voit que chaque mètre, c'est la vie de quelqu'un.
Ce qui est assez fascinant, c'est que, et c'est aussi ça la réalité brute que vous nous montrez, on va revenir sur ce que signifie la terre, mais c'est aussi qu'ils sont 6, ils ont une Kalachnikov à la main, ils sont au milieu des cadavres, il y a des Russes qui sont planqués dans des trous, il n'y a pas de blindés pour faire ces 2000 mètres, il n'y a pas de char pour faire ces 2000 mètres, la base arrière, qui peut manipuler quelques drones qui les guident, mais elle est loin, elle est aussi dans un trou. Ce film, il nous parle quand même aussi d'offensive, là en l'occurrence en 2023, une contre-offensive avec rien dans les mains. Ils y vont, ils sont quasiment tout nus ces soldats.
Mais oui, et en particulier cette partie sur la ligne de front, le fait qu'ils n'ont pas d'armes, qu'ils en manquent, enfin ça saute aux yeux. Nous voyons que cette guerre se ressent comme si l'on était transporté dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ou même de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une expérience épouvantable, universelle, mais en même temps, c'est nous, le public, en voyant cela, nous retrouvons cela dans des films que nous avons vus, des films de guerre, Il faut sauver le soldat Ryan de 1917, À l'Ouest, rien de nouveau, enfin tous c'est des films de guerre des fictions, alors que là, c'est vrai, c'est authentique. Et j'ai vu des gens sortis de la salle qui se sont dit, mais ma foi, ceci n'est pas une fiction, ce n'est pas de la science-fiction, ceci, c'est la réalité du terrain du 21e siècle, au milieu de l'Europe, au milieu de l'Europe. Et pour moi, c'est ça que je trouve frappant, parce que c'est tellement proche de nous, de tous les pays d'Europe, et de la France en particulier.
Est-ce que vous avez le sentiment, justement, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voulez le montrer, que nous avons toujours une vision finalement tronquée de cette guerre, la vision d'une guerre de drones? Alors on sait bien qu'il y a aussi des morts, mais au fond, on l'a pas très bien en tête, et c'est aussi ce que vous voulez nous montrer, ce que vous dites, en effet, c'est aussi une guerre de tranchées.
Mais oui, c'est une guerre de tranchées. Elle a évolué, c'est devenu également une guerre de drones. Il y a beaucoup plus de drones dans les airs, il y a beaucoup plus d'intelligence artificielle, de robotique et de choses comme ça. Mais l'expérience de chaque soldat, de chaque être humain pris dans la guerre, c'est toujours la même. Et c'est ça que j'ai essayé de dire à travers ce film, parce que c'est un film sur la guerre, sur l'horreur de la guerre, le côté inacceptable, mais c'est aussi un film sur l'humanité, parce que dans les moments calmes, lorsque vous avez la mort qui vous entoure, les drones au-dessus de vos têtes, les explosifs partout autour, on est quand même en contact avec des êtres humains. Moi, je me retrouve avec des gens de ma communauté, des gens qui hier conduisaient des camions, qui étaient étudiants, qui étaient policiers dans le civil, et on parle de leur famille, on parle de leurs enfants, de l'université. Et on voit qu'il y a une façon de retrouver tout de suite l'humain, même dans ses pires moments. L'Europe, le monde est au bord d'une période extrêmement difficile. Et il est important de se rappeler où retrouver l'humanité au sein de nous-mêmes.
C'est très frappant dans votre film, Mislav Tchernov. En effet, on le sait bien que cette armée désormais est faite aux deux tiers de gens qui ne sont pas des soldats professionnels. Il y en a même un qui vous dit, moi j'ai jamais voulu être soldat, je suis venu pour me battre, je suis pas venu pour servir. Et en effet, il y a des étudiants, il y a des chauffeurs routiers, personne n'est là par vocation, mais on se dit en les voyant que c'est peut-être aussi ça qui rend cette armée si forte, et ce qui pourrait nous paraître à nous comme une absurdité d'aller planter un drapeau dans une ville qui désormais est détruite, est exactement la raison de vivre désormais de ces gens-là.
Mais oui, exactement, parce que ça n'est pas simplement un village détruit, c'est quand même le foyer, la maison de quelqu'un. Et je vois que l'un des soldats à qui on a parlé, qui malheureusement a disparu récemment sur le terrain, mais sa ville a été bombardée, détruite, et chaque homme que l'on voit dans ce film, c'est un volontaire. Ce sont des gens qui ont pris la décision d'aller se battre, et ils ne se battent pas pour récupérer des mètres ou des kilomètres, ils ne sont pas là pour rattraper, reprendre des villages, mais c'est leur foyer qu'ils veulent défendre, c'est eux-mêmes, c'est de l'autodéfense en quelque sorte. Et là, il y a peut-être un gros malentendu, propagande russe aussi, et on a l'impression que c'est un combat à armes égales, pour un combat territorial, et ensuite on règle ça dans les discussions diplomatiques. Mais c'est pas une guerre territoriale, et on le voit très bien dans le film, pour chacun de ces civils, enfin des civils armés, c'est de la légitime défense, de la défense pour la survie, parce que s'ils arrêtent de se battre, ils meurent, leur famille se fait tuer, leur ville, leur pays est occupé. Par contre, s'ils se battent, ils peuvent peut-être survivre. L'autodéfense a toujours un sens.
Mislav Tchernov, l'homme dont vous parlez, je crois que je vois exactement qui c'est, parce qu'on avait choisi de le diffuser, cet extrait-là, et en effet, on a l'impression au cours du film d'aller vers quelque chose d'absurde, puisque le village est vide, mais c'est lui-même qui donne du sens à ce que sont en train de faire ces hommes.
Quoi qu'ils en disent, c'est chez nous. Les champs, les forêts, ça repoussera. Pareil pour les villes, on les reconstruira. Et on vivra peut-être même mieux qu'avant. Alors il faut continuer à se battre pour chasser ces enfoirés. Et je suis sûr que ça va aller.
Je suis sûr que ça va aller, ce sont ses derniers mots. Et au fond, on a l'impression que non seulement il cherche du sens, mais peut-être, et je ne sais pas si c'est simplement parce que sur le terrain, au moment où ils y sont, c'est ce qu'il faut ressortir, ou si c'est la réalité, mais on a l'impression que c'est vous le plus pessimiste. Parce que la phrase qui dit « si cette guerre durait toute notre vie », c'est vous qui la prononcez, c'est pas eux.
Oui, c'est vrai. Et moi-même, je suis là pour trouver de l'espoir. Et ce sont eux qui me donnent cet espoir, parce que là, dans cette brigade, ils sont directement face à l'armée russe et ils sont là en train de défendre ma ville de Kharkiv. Donc je leur suis extrêmement reconnaissant parce qu'ils ont cet optimisme et ils n'abandonnent pas. Ils continuent de se battre parce que sans quoi, ben, je n'aurais plus de foyer, je n'aurais plus de chez moi. Mais en tant que journaliste, en tant que cinéaste, je dois quand même leur donner la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce que je fais dans le film, parce que sans quoi, si je n'étais là qu'à chanter les louanges des soldats, ce serait un film de propagande, ce n'est pas le but du jeu. Ce que nous voulons faire, d'un côté, on veut faire passer un message sur l'horreur de la guerre et son absurdité, mais également rendre hommage au courage, au sacrifice de ces hommes. Et je crois que dans un film, il faut avoir cette dimension-là, quitte à ce que ce soit un paradoxe, avec une certaine clarté morale.
Et c'est eux qui le disent d'ailleurs, hein, parce que l'un des soldats dit « t'es en train de me filmer, mais ne me filme pas comme un héros ». Et c'est très impressionnant. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait dans cette forêt, et on comprend jusqu'à quel point on est quasiment au corps à corps, puisque dans cette bande de terre qui est si petite, les Russes sont en face, eux aussi planqués dans des trous.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici, enfoiré ? T'as détruit ma maison, fils de pute ! Pourquoi faire ? Allez tous vous faire voir ! Enfoiré ! Prends ça, bâtard !
Mislav Tchernov, je ne sais pas, en voyant cette scène, si cet homme est en train de nous montrer de la colère, de la peur, mais je retiens cette phrase, il dit aux Russes qu'il est en face de lui, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Pourquoi vous êtes venu ?
Mais oui.
En
même temps, lorsque les soldats russes sont rendus, il appelle et mon frère, camarade, enfin, lève les bras, mais enfin, il leur parle comme à d'autres êtres humains. Et puis il y a un gamin de 19 ans qui avait été capturé et qui a dit, mais pourquoi êtes-vous venu ici ? Et le russe répond, je ne sais pas. Le soldat russe répond, je ne sais pas. Et dans cette réponse, tout est dit. Les Ukrainiens qui se battent, bon, se battent pour leur survie, et ils se battent pour leur foyer, pour leur terre, alors que les soldats russes en face, ils sont là, essayer de grappiller du terrain, mais pourquoi faire ? Ils ont déjà le plus grand pays du monde, pourquoi il leur faut en plus ces quelques petits villages, Andriivka ? Et pourtant, ils sont venus, ils occupent le terrain, les terres où nous avons grandi, où nous avons tous ces souvenirs, où nous avons tant d'amour pour cette terre merveilleuse et tout a été mutilé par les bombes russes. C'est d'une grande tristesse.
Il faut le dire que la plupart de ces hommes, Mislav Tchernov, avec lesquels vous avez parcouru ces 2000 mètres, sont morts, soit pendant la traversée, certains après, 4 mois, 5 mois après. Et aujourd'hui, vous suivez Volodymyr Zelensky dans ses tournées diplomatiques. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Je me demandais comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez l'impression où se joue la guerre, en fait ? Est-ce qu'elle se joue là où vous êtes aujourd'hui, avec la diplomatie ? Est-ce qu'elle se joue là où vous avez laissé ces hommes, dans ce champ miné ?
Bon, je ne dirais pas que je suis Volodymyr Zelensky, je suis les événements. Dans l'état actuel des choses, et depuis le début de l'année, il y a des batailles qui se déroulent sur le plan diplomatique aussi. Il faut également leur donner une voix aux diplomates. Et puis il est intéressant de voir que tous les événements politiques se traduisent relativement peu sur le terrain. Alors il y a toutes sortes de paroles prononcées par toutes sortes d'hommes politiques à travers le monde, mais au bout du compte, cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Et lorsque l'on est sur le terrain, lorsque l'on parle à ceux qui vivent dans les villes de la ligne de front, ou les soldats qui s'y battent, ils ne suivent pas l'actualité, ils n'écoutent pas les déclarations politiques, ils sont là pour survivre et pour s'assurer que leur ville au pluriel, ne tomberont pas sous la coupe russe. Mais l'espace politique semble avoir évolué, mais encore une fois, ça ne se traduit pas par grand-chose sur le terrain.
Ça s'appelle la 2000 mètres d'Andrivka, signé donc de Mislav Tchernov, diffusé ce dimanche soir sur France 5. Merci beaucoup, Mislav Tchernov, d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Merci pour ce film aussi qui est magnifique.
Of course, thank you for...
Je vous en prie, merci de m'avoir.
Et merci à Robert Wolfenstein pour la traduction. Le film de Mislav Tchernov, donc il est diffusé dans Le Monde en Face ce dimanche sur France 5, présenté par Aurélie Casse. Voilà, c'est dit. La suite, c'est Le Monde à l'endroit et Louise Baudet.
Et on reparle ce soir du Brexit et de ses conséquences sur l'économie et le budget britannique.
Juste après ça. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we're gonna dance it out. When the pain is released and your love will increase in the power. Showing your love light, gonna glow when the pain is released. In your love will increase in the power. We'll show in your love light, gonna glow. People talk what they don't know. Don't worry what they say. Yeah, some take a lot and still want more, but don't worry about that, baby. Yeah. Chouchou de la playlist d'Inter. Merci à Djoubeka pour la programmation. Le Monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, vous nous expliquez ce soir pourquoi le fantôme du Brexit se rappelle aux souvenirs des Britanniques.
Et oui, comme Voldemort dans Harry Potter, le Brexit a longtemps été celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ses conséquences notables sur l'économie britannique, sujet soigneusement évité par les travaillistes depuis leur retour au pouvoir il y a un an et demi, Keir Starmer et son gouvernement, soucieux de ne pas s'aliéner les électeurs ayant choisi le Leave il y a bientôt 10 ans. Mais depuis quelques semaines, le ton a changé. Keir Starmer se met à blâmer un Brexit bâclé, sa ministre des Finances un accord mal conçu et précipité. Le gouvernement travailliste n'hésite plus à faire de la sortie de l'UE la cause de ses difficultés et des hausses d'impôts très impopulaires, confirmées cet après-midi à la Chambre des communes au titre du budget 2026.
Mais est-ce que c'est vraiment le Brexit qui explique les difficultés britanniques ?
Alors, la sortie de l'UE n'a pas été compensée par les accords de libre-échange signés dans la foulée. Résultat, une économie moins ouverte, donc moins d'échanges, moins d'investissements, moins de productivité. Selon une étude d'impact récente, le Brexit a amputé les recettes fiscales de 90 milliards de livres, soit plus de 100 milliards d'euros. Bref, le divorce a coûté cher à l'économie britannique, mais il n'est certainement pas le seul facteur. Et le choix d'en parler maintenant répond en fait à deux impératifs politiques. Faire porter le chapeau des hausses d'impôts au précédent gouvernement conservateur, mais aussi cliver avec celui qui est devenu le premier parti du Royaume-Uni. Reform UK, parti d'extrême droite qui caracole dans les sondages, avec à sa tête l'ex-champion du Brexit, Nigel Farage.
Mais alors les Britanniques, est-ce qu'on sait où ils en sont? Est-ce qu'ils regrettent le Brexit?
Alors sur le papier, oui, les sondages sont plutôt clairs. Selon une étude récente de l'Institut YouGov, presque 2 Britanniques sur 3 considèrent que c'est un échec. Et plus surprenant, une grosse moitié d'entre eux souhaitent rejoindre l'Union européenne. Surprenant parce qu'à l'heure actuelle, aucun des principaux partis politiques britanniques n'est sur cette ligne. Pas même les travaillistes qui pointent désormais le Brexit, on l'a dit, mais critiquent la façon dont il a été négocié. Bâclé, précipité et pas le Brexit lui-même. Keir Starmer souhaite d'ailleurs des relations plus étroites avec l'UE. Il est en train de les négocier, mais pas question pour lui de revenir au marché unique ni à l'union douanière.
Et alors pourquoi ce paradoxe hein ?
Alors il y a un argument psychologique, souvent et peut-être trop facilement invoqué, celui d'une fierté britannique nourrie de splendide isolement qui ferait que les électeurs, tout en ayant conscience d'avoir fait le mauvais choix, préférerait persister dans l'erreur plutôt que se dédire. Il y a peut-être de cela, mais il y a surtout une dynamique politique à l'œuvre. Reform UK, le parti anti-Brexit, domine tellement les sondages que cela rend les travaillistes prudents. Marquer sa différence pour rassembler son camp face à Nigel Farage, oui, mais naviguer clairement à contre-courant en défendant le retour dans l'UE, c'est un choix beaucoup plus risqué. Enfin, l'air du temps n'est pas pro-européen, alors que Donald Trump règne à la Maison-Blanche et que le vieux continent souffre de ses dépendances vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, du Brexit, le regret du Brexit au retour dans l'Union européenne, il y a un gouffre que le Royaume-Uni n'est pas prêt de franchir.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde retourne au Brésil, dans l'Amazonie brésilienne ce soir, cette fois dans le sud de l'état du Pará, où s'est déroulée la COP30. Pour vous donner une idée, nous sommes dans la forêt du Jamanxim, c'est l'une des réserves les plus ravagées d'Amazonie, ravagée par les orpailleurs que les agents de protection de l'environnement essaient de contrer. La ruée vers l'or a été encouragée par Jair Bolsonaro. Lula a promis d'en finir avec cette activité particulièrement dangereuse pour l'environnement, même si l'activité a baissé de 50% sur les terres autochtones, le combat s'annonce très compliqué. Et le reste, c'est Jean-Mathieu Albertini qui raconte.
Un arbre de plus barre la route de terre qui mène à la cible des agents de l'ICMBio, l'institution chargée des zones protégées. C'est déjà le 20e aujourd'hui, il faut encore descendre des véhicules, encore sortir les tronçonneuses et libérer le passage. Walter Oliveira, responsable de l'opération, s'y attendait, mais ça restera Jean.
Dès que l'on sort de notre base, les orpailleurs communiquent entre eux. Et font tout pour compliquer notre avancée. Presque chaque kilomètre, ils couvrent des arbres pour gagner du temps.
Ils en profitent pour cacher le plus loin possible leurs engins de chantier, le principal objectif des agents.
Les détruire, c'est freiner l'exploitation d'un site et diminuer la déforestation. Une machine comme ça, ça vaut jusqu'à 300 000 euros ici. C'est en tapant sur leur capital financier qu'ils souffrent le plus. Les peines pour crimes environnementaux sont très faibles. Quant aux amendes, beaucoup ne les paient pas.
Une pluie torrentielle complique la coupe d'un nouveau barrage d'arbres. Un petit groupe se sépare et part à pied à la recherche du site avant la nuit. L'expédition est dangereuse. Les gangs investissent toujours plus dans cette activité. Des policiers solidement armés escortent les agents. Après 6 km de progression difficile, enfin, le garimpo se découvre. C'est la dévastation, une terre martyrisée en profondeur sur 4 hectares, mais aucun engin ne s'y trouve, ni là, ni au site suivant. La frustration est grande, mais la nuit est tombée depuis longtemps, impossible de continuer les recherches. Les orpailleurs ont gagné cette manche. Il faut rentrer, Elio, 30 ans de métier, sait qu'il y a des jours sans, il est déjà prêt pour la revanche.
Tu as vu les dégâts que ça fait ? C'est triste, triste, vraiment triste. Ces zones protégées sont des boucliers, c'est ce qu'il reste d'intact. Si on ne fait pas ces incursions, la cupidité s'impose. L'environnement, tout le monde s'en fout. Il n'y a que l'or qui compte.
Les effets de leur paillage se font ressentir bien au-delà de la zone concernée. Très loin en aval, le territoire Mundurucu est particulièrement affecté par le mercure utilisé pour séparer l'or de la terre qui se retrouve dans l'eau et les poissons. Les résultats des tests sont affolants. Se désespère Alessandra Mundurucu, figure nationale du mouvement autochtone.
100% des femmes enceintes et 100% des enfants sont contaminés au mercure. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Leur paillage illégal n'amène pas seulement la violence, il porte aussi la maladie jusque dans l'utérus et le lait maternel.
Avec ces engins de chantier, leur paillage ouvre aussi des chemins au cœur de la forêt, dont profitent ensuite les autres acteurs de la déforestation. Quelques avancées vont dans le bon sens. En 2025, la Cour suprême a annulé une loi qui permettait de déclarer sur la simple bonne foi que l'or vendu ne venait pas d'une zone interdite. Reste que dans une région pauvre, ce business a encore de beaux jours devant lui. Juan est un ancien orpailleur. Il aide maintenant l'ICM Bio à pister les machines du Garimpo.
Si ça continue à ce rythme, il n'y aura plus de forêt ou de rivière propre. J'ai encore des oncles, des frères qui bossent dans ça, mais qu'est-ce que je peux leur dire? Il n'y a pas vraiment d'autre boulot ici.
Le surlendemain, lors d'une nouvelle expédition, le groupe a plus de chance et a brûlé deux engins de chantier et deux véhicules. De quoi redonner le sourire aux agents qui préparent déjà leurs prochaines actions.
Jean-Mathieu Albertini pour le reportage, merci beaucoup. La suite dans le 18-20, c'est l'actualité internationale que Guillaume Audat va chercher sous les radars.
Sous les radars, mais plus tout à fait, c'est tant mieux. Je vous dis pourquoi un trafic sexuel international démantelé au Sénégal pour les proxénètes, c'est fin de cavale.
Écrire le monde, Ilana Mourioussef.
Chez les Kennedy aux États-Unis et sur les rives du lac de Zurich.
Et ce sera juste avant 19h. Ne bougez pas les amis, le tour de la planète continue. Il passe par Liverpool avec Liz Green, Midnight Blues. Ça date de 2012 sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde.
The night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so white and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall lights. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a lot of fun tonight.
Liz Green et Midnight Blues sur France Inter. Guillaume Audat est là.
Guillaume,
Sénégal, la police démantèle un réseau de prostitution aux ramifications internationales.
Et c'est une information qui fait la une des journaux à Dakar et dans tout le pays, tant ce trafic surprend par son ampleur et sa cruauté. L'enquête des services sénégalais de lutte contre le trafic de migrants a révélé l'existence d'un réseau tentaculaire de traite sexuelle bâti autour d'un système de fausses recruteuses sur Facebook qui promettait à des candidates des emplois de domestiques. Les voyages étaient financés par des inconnus, avec à l'arrivée de faux policiers pour les accueillir. Ces femmes, elles venaient de Sierra Leone, de Guinée-Conakry ou du Nigeria. Et en bout de chaîne, ces victimes se retrouvaient déplacées comme de simples marchandises, puis soumises à des rituels d'intimidation glaçants, incisions, coupes de poils, serments mystiques et préparation à l'exploitation sexuelle. Tout cela, c'est une jeune victime sierra-léonaise qui l'a raconté aux policiers sénégalais. Elle est parvenue à s'échapper il y a une dizaine de jours à peine. 8 membres de cette organisation criminelle internationale ont été interpellés. Ils ont commencé à passer à table. Les investigations ne font que commencer.
Ma maison à moi, elle a disparu sous les gravats. C'est ce que dit cette femme. Elle est à Gaza. Elle raconte ce qu'elle a découvert en rentrant chez elle après 2 ans de guerre.
On aura dit destruction incommensurable, dévastation absolue, désastre total. L'ONU, dans un rapport publié ce mercredi, évoque pour sa part, et je cite, un abîme fabriqué par l'homme. Abîme, pour le définir au sens propre, c'est un gouffre vertigineux au sens figuré. C'est un point de rupture où tout semble s'écrouler. Voilà ce qu'il reste de ce minuscule territoire palestinien littéralement pulvérisé sous des dizaines de milliers de tonnes de bombes israéliennes. On a vu des images circuler. L'ONU apporte désormais des chiffres. Les opérations militaires et les restrictions ont provoqué la pire contraction économique jamais enregistrée. À Gaza, le revenu par habitant s'est effondré. Les 22 dernières années de développement ont été effacées en moins de 2 ans de bombardement. Le Hamas, pour sa part, refuse toujours de rendre les armes et d'offrir un horizon à sa population. Israël continue à frapper et à tuer des enfants, notamment 2 par jour depuis le cessez-le-feu. Gaza doit être reconstruite, on ne sait ni par qui et ni comment. On sait combien cela va coûter, 70 milliards de dollars au bas mot et des dizaines d'années.
Alors ça, c'est ce qu'on voit régulièrement à la télé outre-Atlantique, des campagnes contre l'utilisation des singes pour la recherche. Eh bien, c'est fait, les États-Unis vont définitivement tourner cette page.
Il reste 200 primates encagés dans les laboratoires fédéraux américains à l'heure où l'on se parle. Ils étaient en principe destinés à être utilisés, c'est le verbe, comme des cobayes à des fins biomédicales. Mais voilà, ces singes, le macaque rhésus en particulier, vont devoir quitter tous les laboratoires financés par des fonds fédéraux, la nuance est importante. Alors, ils ont longtemps été indispensables, notamment pour le VIH, ces primates. Ils ont servi, c'est vrai, de pont entre l'homme et la découverte médicale. Ils ont sauvé des vies humaines, il faut le dire. Mais l'essor de l'IA et des organoïdes offre désormais des alternatives crédibles. Et c'est quand même mieux ainsi, tant certaines expérimentations pratiquées étaient abjectes, il faut le dire aussi. 2 nuances toutefois. Je vous parlais de fonds fédéraux. Les primates utilisés par des laboratoires privés ne sont pas concernés. Il y en a plusieurs milliers répartis dans tous les États-Unis. Quant aux 200 singes dont on parlait, présents dans des centres de recherche fédéraux, leur sort est incertain. Quelques-uns vont rejoindre des sanctuaires, les autres seront euthanasiés.
Merci beaucoup Guillaume Oda. On se retrouve demain. Et qu'est-ce qu'elle a lu, Ilana Mor Youssef, cette semaine ? C'est Écrire le Monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ilana, le week-end dernier, l'hebdomadaire américain The New Yorker a publié un texte qui a fait aussitôt les gros titres des médias américains. Tatiana Schlossberg, 35 ans, annonçait qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Son nom, évidemment, tout de suite n'évoque pas grand-chose, mais si, quand on a compris désormais qu'elle est la fille de Caroline Kennedy, la petite-fille de John et Jackie Kennedy, alors on comprend mieux l'importance de cette information. L'une des plus illustres familles américaines, Ilana, est à nouveau frappée par le malheur.
1963, assassinat du président des États-Unis John Kennedy. 1968, assassinat de son frère Bob Kennedy. 1999, le fils du président John Kennedy Jr. meurt avec son épouse dans un accident d'avion. 2025, sa petite fille est atteinte d'une leucémie aiguë.
Une nouvelle de dernière minute à propos de la famille Kennedy. La petite fille du président John Kennedy est atteinte d'un cancer en phase terminale. Dans un article du New Yorker, Tatiana Schlossberg, 35 ans, écrit qu'on lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë. Les médecins ont découvert le cancer peu après son accouchement l'an dernier. Elle a depuis suivi des traitements intensifs, mais les médecins disent qu'il lui reste moins d'un an à vivre.
Alors, une foule d'émotions vous traverse à la lecture du témoignage de Tatiana Schlossberg. Un être jeune, confronté à brève échéance à une mort certaine, trouve le courage de sortir de soi pour écrire un texte non seulement intime, mais aussi politique.
Lors du dernier essai clinique, mon médecin m'a dit qu'il pourrait peut-être me maintenir en vie pendant 1 an. Ma première pensée a été que mes enfants, dont les visages vivent en permanence à l'intérieur de mes paupières, ne se souviendraient pas de moi. Toute ma vie, j'ai essayé d'être bonne, d'être une bonne élève, une bonne sœur et une bonne fille, de protéger ma mère et de ne jamais la contrarier ni la mettre en colère. J'ai maintenant ajouté une nouvelle tragédie à sa vie, à la vie de notre famille, et je ne peux rien faire pour l'empêcher.
Ce geste, écrire face à la mort, m'a fait penser à un classique de la littérature, Mars, de l'écrivain suisse-allemand Fritz Zorn, publié en 1976, dont je vous propose de découvrir la première page.
Je suis jeune, riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je suis issu d'une des toutes meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on nomme aussi la rive dorée. J'ai reçu une éducation bourgeoise et je me suis montré sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, aussi suis-je sans doute affligé de lourdes tares héréditaires et détérioré par mon milieu. Bien entendu, j'ai aussi le cancer, ce qui découle logiquement de ce que je viens de dire. Il se trouve que le cancer se présente sous un jour double. D'un côté, il est une maladie du corps à laquelle il est assez vraisemblable que je succombe dans un délai bref. De l'autre, il est une maladie de l'âme, dont la seule chose que je puisse dire est qu'il est heureux qu'elle se soit enfin déclarée. Non que je tienne le cancer pour une maladie qui vous donne beaucoup de joie, mais étant donné que ma vie ne s'est jamais inscrite sous le signe de la joie, j'en suis venu à la conclusion que, tout pesé, je me porte bien mieux depuis que je suis malade que par le passé, avant que je tombe malade.
Fritz Zorn, donc né en 1944, mort en 1976 à 32 ans, en laissant ce livre comme une gifle administrée aux siens.
Et donc deux textes, Ilana, qui sonnent très différemment.
Oui, ils sont très différents. Aucune tendresse pour les siens chez Fritz Horn. Horn qui s'appelait d'ailleurs Fritz Angst de son vrai nom, ça veut dire angoisse en allemand. Il a changé son nom pour Zorn, qui signifie colère, donc il est passé de l'angoisse à la colère. C'est l'écrivaine Blandine Rinkel qui m'a fait cette remarque. Dans son dernier livre, La Faille, elle a écrit des pages magnifiques sur Fritz Horn. Je lui ai demandé d'analyser pour nous ce qui rapproche ces deux textes.
Leurs textes ont peut-être en commun aussi d'allier un événement intime, absolument individuel, à savoir un corps qui est en train de mourir, à des questionnements plus structurels. Ce corps, dans quelle structure politique il est pris? Elle, c'est vrai qu'il y a une charge anti-Trump, elle politise l'affaire, et au moment où on imagine que plus rien ne compte sauf son corps, les siens, on imagine que le monde se rétrécit. Quand on est malade comme ça, bizarrement, c'est un moment où elle trouve le courage d'élargir son propos et le monde.
Alors la charge de Tatiana Schlossberg dont parle Blandine Rinkel, elle est dirigée contre Robert Kennedy, elle se situe un petit peu plus loin dans le texte qu'on a écouté tout à l'heure. Robert Kennedy, c'est le cousin de sa mère, c'est le secrétaire à la santé de Trump, anti-vax convaincu et responsable de nombreuses coupes dans le financement de la recherche médicale. Elle raconte à quel point elle a été horrifiée d'assister à sa nomination depuis son lit d'hôpital. Et au fond, on peut lire le texte de Schlossberg comme un mouvement de révolte également, peut-être pas directement contre les siens, mais contre l'un des siens et contre le sort qui semble accabler sa famille. Le titre de son article, « Bataille contre mon sang », peut s'entendre de plusieurs manières, la leucémie bien entendu, mais aussi cela, une jeune femme qui ne porte même pas le nom des Kennedy, subit elle aussi la malédiction attachée à ce nom. C'est ce qui rend son texte effroyable et tragique. Il a d'ailleurs été publié le 22 novembre, jour anniversaire de l'assassinat de John Kennedy.
Merci beaucoup, Ilana Mor-Youssef. Merci vraiment. Merci aussi à Mao de Butler et à Julien Malacchino pour les lectures. Bataille contre mon sang de Tatiana Schlossberg a donc été publié dans le New Yorker et Mars de Fritz Zorn, traduit de l'allemand par Olivier Lelay, est publié dans la collection Poche Folio chez Gallimard à la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h et c'est François Geffrier. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, c'est nous, le sujet du téléphone sonne, le service public télé et radio devant une commission d'enquête parlementaire.
Jean-Pierre, je trouve qu'il faut conserver le service public, c'est une respiration démocratique. Domi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends sur les médias publics, mais cette commission parlementaire m'évoque le maccartisme. Lolo, j'écoute beaucoup France Inter, j'aime beaucoup, je suis une électrice de centre droit et je me sens persécutée, c'est le terme qu'elle emploie, dans ma façon de voir les choses, c'est ce qui me gêne le plus dans l'audiovisuel public aujourd'hui.
01 45 24 7000 pour cette discussion avec nous, même chemin pour vos pouces par WhatsApp.